fois, premier mot, je t'aime, version romantique. Madame, un café s'il vous plaît, version plus pédagogique. Ou alors, ressort de soupape, pompe à eau et câble de bougie, option mécanique. Tels furent les premiers mots en français de Boy Diola. Première fois, premier roman, parmi les 82 publiés en cette rentrée littéraire française, Boy Diola, ou le récit d'une vie d'immigré, commencé dans les années 60 entre Cagnarou, Dakar, Marseille, Aulnay et Roissy. Boy Diola, ou la vie d'un père, racontée par son fils, Yankumba Diémé. Bonjour.
Bonjour.
Premier roman, premières interviews ?
Premier roman, toute première interview, première fois à la radio, et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui.
Waouh, première interview radio.
Première interview radio,
c'est,
oui.
C'est moi qui suis content. Alors, vous dites roman à propos de Boy Diola, mais quelle est la part de fiction dans cette vie, la vie de votre père que vous nous racontez? J'ai le sentiment que tout est vrai, que tout semble vrai.
Alors oui, c'est un récit authentique, et je ne sais pas qui pourrait le vérifier, peut-être mes frères et ma sœur. Mais c'est un récit authentique sur l'histoire de mon père qui est né dans un village de Casamance qui s'appelle Cagnarou, un village dans la forêt, et qui va quitter son village dans les années 50 pour aller en ville chercher du travail avant d'arriver en France. Et c'était un roman sur une histoire vraie et sans fiction.
C'est une histoire de migration assez classique, enfin celle qu'on connaissait dans les années 60, à l'époque où on ne disait pas migrant mais on disait juste immigré.
C'est une histoire d'immigration, oui, ou c'est un immigré ou un expatrié, c'est comme on veut. Mais c'est d'abord un immigré de l'intérieur du continent, parce qu'avant d'arriver en France, il a beaucoup voyagé. Il a voyagé en Côte d'Ivoire, il est au Libéria, avant de s'installer en France à la fin des années 60. Donc c'est aussi après une migration en France, d'abord à Paris, dans plusieurs quartiers, avant d'arriver en banlieue parisienne dans les années 70 et de s'installer à Aulnay-sous-Bois.
Quel a été le déclencheur pour vous quant à vouloir écrire l'histoire de votre père ? Parce que l'histoire commence en 2010, enfin le roman commence en 2010.
Alors le premier chapitre, oui, j'ai commencé à écrire le premier chapitre de ce roman en 2009. C'était le jour où j'ai appris que mon père devenait français, alors qu'il avait vécu plus de 40 ans en France. Donc il a reçu un courrier à la maison, et bon, comme il n'a pas vraiment été à l'école, c'est souvent les enfants qui lui lisent les lettres, le courrier, et la lettre disait, je sais pas, je me souviens plus des termes exacts, mais en tout cas ça disait, à partir d'aujourd'hui, ou d'hier, je ne sais pas, vous êtes français.
Jour de gloire.
Voilà, jour de gloire, c'est le jour de gloire, mais c'est pas forcément un jour de gloire, parce que il n'a pas eu de réaction. Il n'a eu aucune réaction, et il a pris cette lettre-là comme une lettre de la CAF, ou comme une fiche de paix, ou bien une lettre qui lui annonce qu'il est à la retraite. Voilà, donc le roman, j'ai commencé à l'écrire en 2009, c'est mon premier chapitre, Jour de gloire, et ensuite j'ai mené mon enquête. Mais j'ai commencé aussi à écrire ce roman parce que j'ai appris en 2010 que mon père était arrivé en France par bateau, dans les années 60, et moi, étant né en France et ayant grandi en France, je m'étais jamais imaginé que mon père était arrivé en France par bateau. Je pensais qu'il était arrivé en avion comme tout le monde, et puis voilà quoi. Mais quand je l'ai appris, ça m'a fait un choc, et j'ai compris que entre mon père et moi il y avait une distance.
Et alors vous avez compris cela en voyant la télévision et en voyant qu'il y avait un bateau de migrants, de naufragés, disait-on en 2010, qui arrivait en Corse. Et tout d'un coup, ça a réveillé quelque chose de l'histoire familiale, ce bateau de migrants.
On était devant la télévision, c'était le 13h, le JT de 13h, et on a vu qu'il y avait un bateau qui était arrivé en Corse avec des réfugiés, il dit que c'était des réfugiés. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai appris que mon père était arrivé en France par bateau. Donc j'avais 20 ans, j'étais quand même grand, j'avais 20 ans, et j'avais jamais imaginé comment mon père était arrivé. Et là, quand j'ai commencé à lui poser des questions sur son voyage en bateau, il s'est énervé, il s'est mis en colère.
Pourquoi ?
Et j'ai vu qu'il y avait un gros secret, et que dans la vie des gens, il y a toujours des secrets et des choses auxquelles il faut pas toucher, parce que ça réveille des douleurs, et ça a été une douleur pour lui, et il a pas voulu en parler. Et c'est l'une des seules choses dans la vie qu'il veut pas vraiment aborder. Et j'ai pas voulu le forcer pour ces questions-là, parce que j'estime que quand on écrit un livre, faut savoir aussi parfois accepter les silences et les non-dits.
Mais c'est un sujet tabou dans la famille, dans votre famille, cette arrivée en bateau.
Non, je dirais pas que ça peut être un sujet tabou pour lui, Mais les enfants ont toujours voulu savoir. Et même, en même temps, moi, comme je suis d'une famille, on est 9 enfants dans la famille, que je suis le plus jeune, et que je suis resté avec mon père très tard, ça fait que j'étais au courant de choses que, je pourrais dire sans toute modestie, hein, que mes frères ne savaient pas. J'ai appris des choses sur mon père et que mes frères ont appris en lisant ce livre-là.
Et votre père, qu'est-ce qu'il en a dit de ce livre-là ?
Ah, chez nous, on parle pas tellement. Il l'a eu entre les mains. J'ai eu mes premiers livres quelques mois avant. Et je lui ai donné son exemplaire. Mais sans lui dire, parce que nous, chez nous, on est pudique. Je veux pas dire, papa, j'ai écrit un livre sur toi. Parce que déjà, il était pas au courant. Il était pas au courant parce que c'est un livre qui a été écrit un peu en cachette. Un peu en soum-soum. Donc là, il a eu le livre entre les mains. Il a pas dit grand chose. Il a vu la photo derrière. Il a vu mon nom. En plus, il a reconnu Boy Diola. Donc il a, voilà, le Diola, etc. Mais il a pas eu de réaction. Mais je pense que la réaction, elle peut venir dans 3-4 mois. Parce que mon père est un peu comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de pères en Afrique de l'Ouest qui sont un peu comme ça, qui attendent avant de dire les choses. Faut savoir rester patient.
L'histoire d'un père racontée par son fils entre deux langues, le Diola et le français. On raconte cette histoire, la sienne et la vôtre, après avoir découvert en avant-première le dernier Oxmo Puccino Social Club dans les bacs, comme on dit, à la fin de la semaine.
Yeah, 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 yeah. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé. Space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spardi si samedi. Appelle tes amis si samedi.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
Je suis brisé comme porcelaine.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos concerts. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Oxmo Puccino sur RFI dans deux vives voix en attendant la sortie officielle de son nouvel album Social Club à la fin de la semaine. Le rap, c'est votre musique, Yann Koumba-Diémé ?
Ah, j'écoute du rap depuis longtemps, oui, depuis très longtemps. C'est la musique que j'ai le plus écouté, le genre que j'ai le plus écouté dans ma vie, c'est le rap, oui. Mais le rap Oxmo, je connais pas trop parce que c'est pas trop ma génération.
Et trop vieux.
Non, c'est trop vieux, mais faudrait demander à mes grands frères, ils connaissent plus que moi. Moi, je connais, bien sûr. J'ai une culture rap, mais je suis plus dans le rap actuel et plus rap hardcore.
Yann Koumba-Diémé, pour votre premier roman, vous nous racontez donc la vie de votre père. Et la musique que l'on entend, c'est pas tant le rap, c'est plutôt la musique de sa langue. Comment vous avez écrit ce texte au fil de ses récits, en l'écoutant parler, en l'enregistrant presque, parce qu'on l'entend parler?
Alors oui, il y a ces mots, comme c'est écrit dans le livre en italique, et c'est vraiment sa langue. J'ai pas touché. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, j'ai pas essayé de retravailler pour que ça soit entre guillemets ça sonne plus français, plus juste. J'ai laissé les mots tels quels. Et c'est aussi un livre avec des mots en Diola, que c'est la langue de mon père et notre langue aussi. Et voilà, pour moi, c'est important d'avoir ces langues-là et d'avoir la langue du père qui apparaît et qui est importante dans les livres.
Ça donne une littérature très orale, parce que parfois, les phrases sont bancales. En effet, elles sont un peu coupées, un sujet ou un adjectif saute, mais on entend parler le bonhomme quand même.
On entend parler, et c'est ça, parce que je le disais au début, c'est un roman, mais c'est sans, il y a pas de fiction, c'est une histoire vraie. Alors c'est une histoire qui est faite parfois de silence, d'oubli, ou tout simplement parfois il y a des sujets que mon père voulait pas aborder Et moi, dans ma, dans la forme, je prends en compte le fait qu'il veuille pas parler de certaines choses. Alors, il y a des coupes, il y a du silence, et dans le texte, ça se voit.
Mais ce parler-là, c'est du français de quelqu'un qui ne l'a pas appris à l'université, qui l'a appris comme ça un peu sur le tas, un français un peu comme ça, pas tout à fait correct, un peu populaire, ou c'est un français imprégné de la langue diola?
Alors non, la langue diola, nous on la parle pas, on peut la comprendre un petit peu, se débrouiller un peu, mais c'est pas, je pense que je parle mieux anglais ou espagnol que diola. Le diola, je peux me débrouiller un petit peu, je peux aller au village, discuter avec les mères qui parlent pas français, mais on l'a jamais vraiment appris à la maison.
Donc il y a une coupure générationnelle entre votre père et vous.
Voilà, il y a une coupure, mais bon, après, une fois que j'ai écrit ce livre, je pense que j'ai fait un pas de géant vers lui. Mais c'est aussi la langue de ce livre-là, la langue du narrateur, c'est la langue qui se rapproche le plus, on va dire, de la langue que je parle avec mes frères. Parce que j'ai 29 ans maintenant, et dans ma vie, j'ai souvent fait semblant de parler une langue qui n'était pas la mienne. D'ailleurs, peut-être que je continue un petit peu à le faire, là. mais voilà, mais après, voilà, le livre, c'est une occasion en or de, d'écrire comme on a envie d'écrire, et comme ça vient du cœur, et ça vient du souffle.
Et votre père, donc, qui s'appelle Apero, votre père a appris le français comment? À l'usine, c'est ce que j'évoquais avec les premiers mots au début de l'émission. Pompe à eau, durite, couvercle de culasse, ça sont les premiers mots, ça c'est vrai, il a appris le français avec ces mots-là.
Ouais, il a appris le français, il est né au Sénégal, il est dans un village en Casamance, il a jamais été à l'école, son frère était à l'école, mais lui, il n'a pas été à l'école. Donc il a cultivé pendant sa jeunesse, ensuite il est allé à Dakar, et il a appris le Wolof aussi, parce qu'il parlait que Diola, il a appris le Wolof en arrivant à Dakar. Et ensuite, il a appris le français un petit peu à Dakar, et surtout en Côte d'Ivoire, où il a vécu un peu plus d'un an. Et c'est là qu'il a appris le français, et une fois qu'il est arrivé en France, il a suivi un peu les cours du soir, après le travail à l'usine, et c'est comme ça qu'il a appris à parler français. Et maintenant, il parle son français, mais son français à lui. Et je suis sûr qu'il y a, plein de, parfois, quand des amis ils viennent à la maison, et quand ils sont pas habitués à l'accent d'Afrique de l'Ouest, ils vont pas tout comprendre. Mais nous, comme c'est notre père et qu'on a grandi et qu'on est habitués.
Que diriez-vous de la vie de votre père? Est-ce que ça a été une vie dure? Est-ce que ça a été une vie de débrouille? Est-ce que ça a été une vie d'humiliation? Est-ce que ça a été une vie de fierté?
Ça a été une vie tout court. C'est-à-dire qu'il y a une vie avec, des fois il a souffert, des fois il a rigolé, des fois c'était un peu difficile, des fois il s'est bien amusé aussi. Et j'essaye dans ce livre de sortir un peu des discours qu'on a sur l'immigration et sur les immigrés, de souvent les voir comme des victimes ou comme des gens dont il faut avoir pitié. Et moi, souvent, je me méfie un petit peu de ça, parce qu'il y a, je dis que la frontière entre la pitié et le manque de respect est très fine. Donc en fait, c'est, non, il a une vie, il a une jeunesse, et c'est bien aussi pour un fils de savoir que les parents ont été jeunes. Donc les parents sont sortis en boîte, les parents ont dragué des filles aussi à Pigalle dans les années 60 avec des amis, en fumant des cigarettes et en portant des pantalons pas de def et des coupes afro bien carrées, bien peignées. Donc c'est bien aussi de savoir ça.
Tout en voulant travailler tout le temps, parce qu'il y a quand même très très volontaire dans ce désir de s'intégrer et de travailler. Il ne veut pas être un foyard. J'ai découvert que le mot foyard, c'est-à-dire rester au foyer, était une insulte.
Un foyard, oui, foyard, c'est un mot qu'on utilisait entre nous quand j'habitais à Aulnay-sous-Bois, ou même à Saint-Denis, hein, quand j'étais plus jeune. On disait foyard, mais ça venait du foyer, parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans les foyers.
Et ça, nous, ça va pas du tout.
On avait un peu de mépris pour eux, on disait, ah, c'est des foyards. Et quand on arrivait à l'école mal habillé, ou qu'on faisait une faute de français, on disait, ah, espèce de foyard. Donc voilà, mais après, c'est pas un mot qu'utilisaient nos parents, mais voilà. Et mon père, oui, il a travaillé à l'usine pendant 14 ans à Citroën. Mais par contre, il a travaillé, mais de ce que je sais de lui, il s'est jamais laissé faire. C'est-à-dire que si son chef disait un mot de travers, il recadrait son chef.
Souvenir sonore de ces années-là, le début des années 80, donc la gauche est au pouvoir, la crise est là aussi, avec ses plans de licenciement, ses manifs et ses grèves.
Rentrée extrêmement contrôlée cet après-midi chez Citroën à Aulnay, l'usine la plus touchée par les licenciements. Des cages grillagées mises en place par la direction pour filtrer les entrées ont provoqué des heurts entre quelques-uns des 200 policiers présents et des ouvriers qui refusaient d'être traités comme des rats, selon leur expression.
Nous, on n'empêche personne de rentrer. Il y a la porte principale pour rentrer. Nous n'accepterons pas les gens qui rentrent par sortez au curiage.
Pour la plupart des 300 autres ouvriers présents à l'extérieur des grilles, c'était plutôt le découragement. Les licenciés, eux, allaient retirer leur fiche de paie dans une caravane à l'extérieur même de l'usine. Pour certains parmi eux, le retour au pays est déjà décidé. Pour les autres, c'est l'expectative quant à la formation.
Haute 84, Aulnay-sous-Bois, les usines Citroën et les grèves qui vont avec, votre père y était peut-être, hein, Yangouba Diémé, ce jour-là, avant d'être licencié, qui est un autre sujet sensible dans votre famille et dans votre récit. De votre père, vous écrivez « Les années d'usine n'ont jamais effacé les paysages de la brousse dans ses yeux ».
Oui, je suis content en fait que vous souligniez cette phrase-là. Je l'aime bien moi aussi, que les années d'usine n'ont jamais effacé les paysages de la brousse dans ses yeux. Ça c'est une phrase, voilà, quand il revient dans son village à Cagnaro en Casamance et que les enfants le découvrent un petit peu, parce que les plus jeunes ils le connaissent moins, les anciens savent qui est mon père au village, mais comme il y a des naissances et voilà, les jeunes qui arrivent ils le connaissent pas forcément. Et voilà, c'était pour faire un lien entre l'agriculture au village et le travail à l'usine, quoi. Donc c'est un agriculteur, un riziculteur et aussi un ouvrier.
Et vous découvrez ce qu'est ce pays, le Sénégal, la Casamance, le village avec lui, pour essayer de mieux le comprendre, parce que ce roman Boy Diola, c'est peut-être aussi un roman d'initiation, de votre initiation à la culture de l'autre qui est votre père.
Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup appris grâce à ce livre, en l'écrivant, j'ai appris beaucoup de choses sur mon père que je savais pas avant. Et voilà, en 2001, c'est la première fois que j'allais au Sénégal, j'avais 11 ans, j'étais avec mes frères et mon père, et on a été au village, on a été en Casamance, et on a vraiment vu d'où il venait, quoi, parce qu'il y a quelque chose que mon père il dit souvent, c'est... Moi, je viens de la forêt. Je suis né dans la forêt. Je suis quelqu'un de la forêt. Il le dit avec fierté. Il le dit sans gêne. Parce que beaucoup de gens se cachent. Ils veulent pas forcément dire d'où ils viennent, où ils ont grandi. Mais mon père, il a toujours assumé le fait de venir de la forêt. Donc après, voilà, j'ai été au Sénégal en 2001 avec mes frères. Et la première fois, je découvre ce village-là. Parce que avant, j'avais jamais été en Afrique. Et je regardais la télévision comme tout le monde. Et comme on est né en France et qu'on grandit en France, on se nourrit de documentaires sur l'Afrique. Avec des images de famine et de pauvreté dans les chaînes à la télévision. Et quand on arrive dans ce village, on se rend compte que non, c'est pas ça du tout, c'est autre chose. Les gens qui cultivent, on cultive beaucoup.
Ça a été un choc pour vous ?
Ça n'a pas été vraiment un choc parce que j'étais petit, et quand on est petit, on voit pas les choses de la même façon que quand on est grand. Ou alors on se ment à soi-même. Parce qu'il y a des auteurs qui arrivent à raconter des choses qu'ils ont vécues quand ils avaient 11 ans. Comme s'il l'avait vécu aujourd'hui. Et moi, je suis incapable de... Donc en fait, c'est ce chapitre-là où je parlais de mon premier match au Sénégal, c'est aussi une reconstruction par rapport à ce que mon père m'a raconté, ce que j'ai vu moi quand j'avais 11 ans, et aussi ce que j'ai vu après, parce que je suis retourné au Sénégal plusieurs fois après, pour mon livre aussi. Donc j'ai reconstruit un peu les premiers voyages.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une fiction, ce roman, mais il n'y a pas de chronologie non plus. Donc c'est aussi une façon un peu mosaïque que de raconter une histoire, une double histoire, qui est celle à la fois de votre père et de votre rapport à votre père. J'aimerais, Yankoumba Diémé, que vous lisiez un extrait de votre livre qui raconte, c'est au début du roman, qui raconte justement le rapport de votre père à sa propre culture et à son propre village.
Du temps de avant-avant, on mettait le feu à la forêt. Les animaux, en fuyant les flammes, étaient piégés par les chasseurs postés en embuscade. Le soir, dans les bols, on mangeait la viande de l'animal qui avait bien voulu se faire tuer. Des biches, des singes, des phacochères, des porcs-épics ou des hyènes. Le mot haram n'était pas encore dans les bouches. Les hyènes tuaient les chèvres et les chasseurs tuaient les hyènes. Ça, on mange, mais c'est rare. Quand on tue, tout le village vient goûter. C'est ça qui donne la force. Avant chez nous, les vieux, ils mangeaient mundugu, la hyène. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été à l'hôpital. Les Kunifana goûtaient les premiers à la viande. Ils disaient, on va goûter. Si on tombe, vous mangez pas. Et ça marchait. Les bonnes intentions rendaient la nourriture comestible. Un chasseur pouvait attendre une proie toute la nuit. Et si la nuit dans les arbres ne donnait rien, il leur restait une chance. Celle de croiser la route d'un animal mort. Ce qui est mauvais, c'est pas ce que tu manges. Ce qui est mauvais, c'est la bouche. Apéro a pris ses distances. Les amis sont morts comme des chiens. Les jeunes n'ont pas écouté les recommandations. Ils ont commencé à déconner. Ils ont abandonné trop de coutumes. S'ils avaient continué de suivre les conseils des Kunifanao, le village aurait marché droit. Beaucoup de choses lui ont échappé depuis qu'il s'est installé en Europe. Apéro ne peut plus regarder Kanyaro en face.
Extrait de Boy Diola, premier roman donc de Yankumba Diémé. On l'a entendu dans ce court extrait. Vous introduisez des mots Diola dans la langue française, et heureusement que c'est vous qui les prononcez, parce que j'aurais été bien en difficulté à les prononcer. Par exemple, ce mot de Kunifanao, c'est ça?
Kunifanao.
Kunifanao. C'était important d'inscrire ces mots-là qui sont quoi? De la transcription pure et simple ou une réinvention du mot?
Non, c'est des mots que j'ai entendus, des mots voilà, Kunifanao, ça veut dire les anciens, les vieux, et souvent mon père il fait référence aux anciens du village. Il a le respect des anciens et il dit les vieux, les anciens, les Kunifanao à l'époque disaient ceci ou cela. Et c'était important dans mon livre de garder ça. Il y a des mots en Diola, il y a des mots par rapport à des fruits, par rapport à des plantes, et il aurait fallu déjà d'une que je connaisse l'équivalent en français, parce que c'est des plantes qui n'existent pas forcément ici, ou alors ça existe, mais il y a un nom scientifique, et je voulais pas, plutôt que de parler d'une plante avec un nom en latin, je préférais dire les kangoulei. Les kangoulei, c'est une plante qu'on ramasse beaucoup en Casamance, notamment, plus, pas en Casamance, mais plus dans la région du Fony, le village d'où est originaire mon père, et qu'on mange avec du riz.
Et ainsi s'enrichit la langue française.
Exactement.
Vous avez écrit ce livre dans presque 10 ans, on l'a raconté, Yankuba Diémé, après avoir fait notamment des études d'anglais et obtenu un master de création littéraire à l'université Paris 8. Et alors, en cette rentrée littéraire, vous êtes quelques écrivains, pas des quantités, mais 3, 4, 5, à avoir suivi cette formation. Qu'est-ce qu'on y apprend dans un master de création littéraire, et est-ce que c'est cette formation qui fait de vous un écrivain ?
Une des fondatrices du master qui aimait dire que dans le master on crée pas des talents, mais on les déploie. Donc chacun dans le master est arrivé avec son bagage, avec son histoire à raconter, et on apprend pas forcément à écrire, mais on apprend à être face aux critiques et au regard des autres. On monte ses textes, parce que souvent on écrit mais on garde un peu pour soi, alors que là c'est un master qui dure 2 ans. On a des étudiants, on a des écrivains, des intervenants qui viennent aussi pour parler littérature et parler des textes. Et on se confronte au regard des autres, et des fois ça peut être très très difficile. Hein. Donc c'est un apprentissage, on apprend et ça nous endurcit. Mais on n'apprend pas à écrire parce qu'on écrit avant, mais on apprend à peut-être s'affirmer un peu plus. Moi dans le master, ce que j'ai appris c'est ça quoi. J'ai appris pas forcément à vouloir ressembler aux autres, écrire comme tout le monde, que chacun a sa façon d'écrire, mais trouver mon identité et trouver comment je voulais raconter mon histoire.
Son style en fait.
Son style, avoir son propre style.
Yankuba Diémé, c'est la rentrée. Et en toute logique, nous retrouvons Pierrette Crouzet-Dora, la chef de la mission du développement et de l'enrichissement de la langue française, la DGLF. C'est notre rendez-vous mensuel.
En bon terme.
Écoutez, moi je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot.
Interprète.
Ça simplifiera les autres définitions.
Interprète.
Avec Pierrette Crouzet-Dora, bonjour.
Bonjour Pascal.
C'est la rentrée, donc.
Mais vous en faites une tête. Bah vous avez les vestibules tout contractés. Vous croyez que c'est fini de s'amuser? Mais pas du tout.
Un peu.
L'éducation nationale vous a préparé une rentrée ludique. Parce que dans le domaine de l'éducation, on joue et on joue sérieux. Depuis très longtemps, vous connaissez les Serious Games. Traduit par jeu sérieux, avec des fiches qui sont déjà entrées dans France Terme depuis longtemps. Mais tout récemment, nous nous sommes intéressés au terme jeu d'évasion, escape game. Alors entrons un peu dans les coulisses pour fabriquer la définition d'escape game. C'est un jeu qui consiste à résoudre collectivement dans un temps limité et dans un espace clos un problème ou une énigme scénarisée. Ça, c'est la première définition proposée par les experts. Elle est envoyée à la commission qui la modifie un petit peu et qui propose jeu construit autour d'un scénario qui consiste à résoudre collectivement dans un temps limité un problème ou une énigme afin de s'échapper physiquement ou symboliquement d'un espace clos.
On fait plus simple.
C'est-à-dire que l'académie, quand elle reçoit ça, elle nous demande, tout en donnant un avis favorable sur le terme, qu'entend-on exactement par s'échapper symboliquement d'un espace clos?
Vous m'en direz tant. Et alors?
Elle a raison, on ne sait pas trop répondre. Et finalement, elle nous propose, et elle a raison, s'échapper d'un espace clos, qu'il soit réel ou virtuel.
Vive l'académie.
Alors, ces serious games et ces escape games, ces jeux d'évasion se répandent comme la vérole sur le bain clergé. Peu à peu arrive aussi un autre terme qui désigne ce phénomène d'engouement pour le jeu dans l'entreprise, la société, l'école. C'est un anglicisme, gamification. Qu'est-ce que la gamification? En fait, la gamification, c'est cette utilisation de ressorts ludiques dans une démarche pédagogique ou mercatique. La définition ne pose pas de problème. La commission se penche sur la création d'un terme. Il faut trouver un terme nouveau pour traduire gamification. Et elle tombe sur le terme ludification, qui, malgré l'absence d'usage du verbe ludifier, lui semble correct.
Mais c'est ludique, ludifier.
Voilà, il est formé sur le verbe latin luso, lusis, lusis, ludere, lusilusum. Vous aimez ces déclinaisons latines, je vois que vous vibrez.
Pour la rentrée, c'est bien de réviser.
Voilà. Alors, on a ludion, ludique, tout ce qui est formé sur ludo, ludothèque, ludothérapie. Et dans un premier temps, l'Académie émet un avis réservé sur le terme. La morphologie de ce terme n'est guère satisfaisante et ne rend qu'imparfaitement la notion envisagée. Ça va mal. Mais les experts, qui sont très forts en thème latin, maintiennent le terme de ludification et donnent des arguments. La morphologie leur semble satisfaisante. On rappelle le latin ludificor, se jouer de, ludificatio, action de jouer de, avec certains sens voisins, mais qui attestent cependant d'une formation correcte, comme électrique donne électrifié et électrification. Le terme ludification est déjà par ailleurs bien implanté et semble un candidat valable pour éviter que continue à se développer l'usage de l'équivalent anglais.
Donc nous allons ludifier toute cette année. Merci Pierrette Crozet-Dora. Yanko Badiémé, vous êtes attentif à cet aspect de la politique linguistique, à lutter contre les anglicismes, vous qui écrivez Boy Diola.
Ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup la linguistique et surtout la sociolinguistique. Et ce livre-là, c'est ça, c'est de s'affirmer, d'avoir sa propre langue et de pouvoir parler comme on a envie de parler, quoi, parce que dans la vie, quand on perd tout, la seule chose qui nous reste, parfois, c'est la langue et le propre style, et parler comme on a envie de parler.
Et puis Boy Diola, finalement, c'est du Diola, parce que c'était le surnom de votre père. C'est pas un anglicisme, Boy Diola.
Boy Diola, non, c'est pas un anglicisme, parce que au Sénégal, souvent, les gens, ils font référence à l'ethnie des personnes. On parle le peul, on parle l'ethnie assez facilement. Et à Dakar, quand vous êtes Diola, ou quand vous êtes Mandingue, ou vous êtes peul, les gens, souvent, ils vous taquinent un peu, mais pour rigoler, c'est gentil, quoi. Ils vont vous dire, Boy Diola, hey, le Boy Diola. Et Boy Diola, c'est aussi le surnom d'un lutteur en Casamance. Donc, c'est un bon clin d'œil pour mon père, qui a lutté aussi à sa façon.
Et vous étiez Monsieur Cravate?
Moi, j'étais Monsieur Cravate.
C'est votre surnom à l'école, premier
j'étais
de la
Monsieur
classe.
Cravate. À l'école, ouais, j'étais assez bon au début. J'étais plus ou moins bon, ça dépend des périodes, mais on m'appelait Monsieur Cravate parce que mon père a beaucoup de cravates à la maison, a toujours collectionné des cravates, parce que quand il était au Sénégal, avant d'arriver en France, une fois qu'il avait quitté le village, il travaillait en ville, et son père et les anciens du village travaillaient pour un couturier qui s'appelait Qatar. C'était le couturier de la ville qui faisait beaucoup de costumes, et il interdisait aux gens qui faisaient les coupes et qui faisaient les costumes d'emporter. Alors mon père, toute sa vie, a porté des costumes et des cravates pour bien se souvenir de l'interdiction qu'il y avait autour des costumes. Et moi, j'ai grandi avec des costumes et des cravates.
Voilà une des histoires de votre roman Boy Diola. Merci beaucoup Yanko Badiémé. Boy Diola, édité chez Flammarion. Un deuxième livre est en route ou c'est encore trop tôt?
Il y a deux mois, je vous aurais dit non, il n'y a pas de deuxième livre, parce qu'il faut laisser un peu tout ça se reposer, mais il y en a un deuxième et un troisième, et il faut être là parce que ça va être quelque chose de très très lourd.
Donc on se donne rendez-vous. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin et Florian Dorimini à la réalisation. Demain, nous serons à Athènes, en Grèce, pour le congrès européen des profs de français. À demain.